Le journal. Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. La mobilisation à Hong Kong ne faiblit pas. En revanche, ce nouveau week-end de protestation est crucial pour la crédibilité du mouvement. Après notamment les violences qui ont eu lieu le week-end dernier à l'aéroport international, les opposants au gouvernement pro-Pékin se sont de nouveau mobilisés hier, comme ils le font depuis plus de deux mois maintenant. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans un parc de la ville pour une veillée destinée à appeler les pays étrangers à adopter des sanctions contre les responsables du gouvernement. Sur place, Valérie Crova.
Leur détermination est toujours aussi forte, malgré les bruits de bottes qui se font entendre tout près de leur île. Les Hongkongais ont tiré les leçons des précédentes violences de l'aéroport. Il n'y a eu aucun débordement, même si certains, comme Jack, étudiant en droit, comprend la colère qui peut s'exprimer.
Je dois admettre que parfois les choses dégénèrent et deviennent hors de contrôle parce que le gouvernement n'a pas apporté de réponse à notre colère, pas de réponse à notre agonie, pas du tout, même pas un peu. Nous voulions qu'il retire le projet de loi. Il a été suspendu. Je ne pense pas que nous puissions encore faire confiance au gouvernement. Donc notre colère est inarrêtable maintenant.
Les attentes des Hongkongais sont particulièrement fortes vis-à-vis des États-Unis. Quelques manifestants avaient d'ailleurs apporté avec eux la bannière étoilée.
À Hong Kong, nous pensons que les États-Unis sont le symbole de la liberté et de la démocratie. Nous espérons qu'ils vont aider Hong Kong à se déterminer, à développer sa démocratie et à maintenir son statut d'État libre.
Et c'est sur l'hymne américain que les manifestants se sont séparés, en attendant de se retrouver demain pour un autre grand rassemblement au parc Victoria, dans le nord de l'île.
Valérie Crova, envoyée spéciale de France Culture à Hong Kong avec les moyens techniques de Jérémy Thuile. Et à Moscou aussi, une nouvelle journée de manifestation commence à l'appel des communistes et de l'opposition. Depuis plus d'un mois, les opposants au Kremlin réclament des élections libres. Aujourd'hui s'ouvre à Genève la conférence sur la protection des espèces sauvages menacées d'extinction. Pendant 11 jours, les 183 membres de la CITES, l'organisation internationale qui régule le commerce de la faune et de la flore en danger, vont légiférer sur le sujet. Leur but, modifier les degrés de protection des animaux et plantes sauvages pour assurer leur survie. Et cela passe parfois par une interdiction totale du commerce ou un encadrement strict, car ces dernières années, le cybertrafic d'animaux sauvages est en pleine expansion. Les particuliers sont notamment très friands de reptiles. Tara Schlegel.
Dans l'étude faite en 2017 par l'ONG IFAO, la moitié des annonces illégales pour la vente d'animaux vivants concernaient des reptiles. Maxime peut en témoigner. À 15 ans, il élève déjà chez lui un varan et quatre geckos. Cet adolescent scrute régulièrement des sites comme Le Bon Coin.
On tombe souvent sur des terrariums pas du tout adaptés au niveau des conditions de maintien, à des températures trop basses ou trop hautes. Par exemple, récemment, j'ai vu un piton royal qui n'était pas chauffé. Le terrarium était effectivement trop petit, avec un substrat pas adapté, et ça c'est très fréquent en fait. On les signale au site, comme quoi c'est des annonces qui ne sont pas en accord avec la loi et elles sont supprimées.
Chaque pays est effectivement responsable de réprimer ces ventes illégales, mais à l'échelle mondiale, la préservation des espèces nécessite parfois l'autorisation d'un commerce encadré. Ces pitons royaux, justement, ont le droit d'être exportés par trois pays, Ghana, Bénin, Togo, à condition de respecter des quotas, qui ont d'ailleurs permis à ces serpents d'être paradoxalement mieux protégés. David Oudjani est biologiste à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il s'est rendu dans la campagne près de Lomé, au Togo.
Les villageois, s'ils ne trouvent pas d'intérêt à leur faune, ils vont par exemple tout défricher, vont planter du palmier à huile ou, selon l'endroit, des anacardiers, des choses comme ça. Quand ils vont comprendre que de protéger leur environnement naturel, ça leur amène un revenu, par exemple, ils vont laisser des zones sauvages dans lesquelles ils vont pouvoir récupérer des œufs de ces femelles pitons et varans des sables, qui vont être incubés et artificiellement exportés.
L'élevage des œufs génère alors des ressources qui permettent de lancer des programmes de sauvegarde. La population sauvage des pitons a ainsi augmenté ces dernières années au Togo.
Tara Schlegel, l'Islande pour s'entraîner comme sur Mars. Avant d'y envoyer un nouveau rover l'année prochaine, c'est sur l'île volcanique que la recherche de vie sur la planète rouge commence pour la NASA. L'agence spatiale américaine a en effet choisi un champ de lave au pied d'un glacier à l'ouest de l'île pour tester l'un de ses prototypes. Reportage de Jérémy Richard.
Équipé de capteurs, caméras et instruments scientifiques, le petit véhicule spatial blanc et orange recueille et classifie les données de son environnement. Pas question pour lui, en revanche, de quitter la Terre pour rejoindre Mars l'an prochain. Adam Delaurier est responsable espace et instructions pour Mission Control Space Services.
Ce rover-là est fondamentalement indestructible, car ce que nous avons sur Mars et la Lune serait beaucoup plus sensible à l'environnement et aux conditions de l'Islande. Un rover lunaire n'est par exemple absolument pas préparé à la pluie.
L'astromobile de quelques 570 kg avance tout doucement sur le sable noir volcanique. Vitesse maximale pour être efficace, 20 cm par seconde. Mark Vandermeulen, ingénieur en robotique.
Le rover va bien plus vite ici sur Terre. Je crois que sur la Lune ou sur Mars, sa vitesse sera autour de 5 à 10 cm par seconde.
Pendant 3 semaines, le champ de lave au pied du Langeoogkeutl, deuxième plus grand glacier à l'ouest du pays, a été le terrain de jeu des scientifiques et ingénieurs en robotique missionnés par la NASA. Ryan Ewing est professeur en géologie et géophysique à l'université A&M de Texas aux États-Unis.
La minéralogie en Islande est très similaire à celle que nous trouverions sur Mars. En plus, il y a peu de végétation, il fait froid et il y a des éléments comme les dunes de sable, les rivières et les glaciers que Mars possédait dans le passé.
À la fin des années 60, 32 astronautes ont suivi une formation grandeur nature à la géologie en Islande en préparation aux missions Apollo.
Jérémy Richard. En France, on est toujours sans nouvelles de Simon Gauthier. Ce jeune Français de 27 ans a disparu en randonnée dans le sud de l'Italie depuis 7 jours maintenant. Il avait appelé les secours en indiquant avoir les jambes cassées. Deux équipes sont mobilisées pour le retrouver dans une zone rocheuse et difficile d'accès. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, et la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, critiquées par plusieurs élus écologistes pour leur présence à une corrida à Bayonne. Corrida pendant laquelle le matador Daniel Louquet a dominé 6 taureaux mercredi après-midi. Didier Guillaume est notamment en charge du bien-être animal. Peter Fonda, la star du film Easy Rider, est décédé cette nuit. L'acteur américain avait 79 ans, fils de Henry Fonda et frère de Jane Fonda. Il est mort d'un cancer du poumon à Los Angeles. Il était connu principalement pour ce film sorti en 1969, un classique de la contre-culture américaine des années 60. La météo pour finir, ce matin, beaucoup de pluie sur un gros quart nord-ouest du pays, du soleil dans le sud-est et des nuages ailleurs. Il y a aussi du vent sur les côtes de la Manche. Pour les températures, il fait 19 à Paris, 16 à Montélimar, 17 à Brest et 21 à Marseille.